Bonjour mesdames et messieurs, mieux vaut tard que jamais. Bonne année 2022 à tous les auditeurs et internautes de l'émission Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Nous allons parler des crépitements d'armes pendant la nuit de Saint-Sylvestre 2021. Le gouvernement centrafricain et la mission onusienne dans le pays ont promis une sécurisation robuste durant le réveillon, mais force est de constater que des tirs d'armes ont été retentis dans presque toute la capitale Bangui, faisant 3 morts, dont un bébé et plusieurs blessés par balle. Malgré les mesures sécuritaires promises par le gouvernement et la MINUSCA, la mission onusienne dans le pays, les Banguissois ont été surpris de ces détonations d'armes. Question: qui sont les auteurs de ces tirs d'armes? Les forces de l'ordre de sécurité sont-elles dépassées par le cours des événements? Comment explique-t-on le laxisme du gouvernement face à cette pratique? Voilà tant d'interrogations qui feront l'objet du débat politique du premier média centrafricain, Radio Ndekeluka. Monsieur Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme, membre de la société civile, monsieur Christian Emendota, bonjour.
Bonjour Armando.
Journaliste indépendant et observateur de la vie sociopolitique centrafricaine, et Mathurin Dimbelenakwe, coordinateur du mouvement Centrafrique Debout, organisation qui soutient les actions du gouvernement. Monsieur, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Armand Douanguendi, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, comme annoncé au début de ce débat, les Centrafricains ont été surpris des tirs d'armes intempestifs durant la nuit de Saint-Sylvestre. Radio Ndekeluka a recueilli quelques plaintes des victimes. Ouje Obervo-Palanyawa nous en fait le point.
Les Centrafricains qui espéraient passer un réveillon paisible ont vu Bangui vibrer au rythme d'armes automatiques de différents calibres. Des balles réelles ont sifflé ça et là. Conséquence, plusieurs familles déplorent des dégâts chez elles. Claudia habite le quartier cité Jean 23 dans le 4e arrondissement.
La première balle a percé le plafond et est tombée dans le salon. Nous étions dans la chambre à coucher. J'ai dit que c'est une balle qui est tombée. Mon mari a allumé et l'a cherché et trouvé. La deuxième a perforé le plafond dans notre chambre et frôlé ma jambe sur le lit. Nous avons retrouvé les 2 balles.
Kelly, habitant du 2e arrondissement, a frôlé la mort car les touché par une balle perdue au thorax.
J'étais fatigué, couché. La balle a perforé le toit de ma maison et m'a touché. C'est la balle que je vous ai présentée et que j'ai apportée à Radio Ndekeluka.
Dans les hôpitaux, les responsables déplorent 100 de blessés et au moins 3 morts, dont un enfant de 3 ans. Sur les réseaux sociaux, les internautes avancent des chiffres inquiétants et publient même des photos d'impact de balles perdues. Comment expliquer l'intensité de ces tirs d'armes pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, alors qu'un couvre-feu est en vigueur et des mesures sécuritaires robustes ont été annoncées? Joseph Binoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, pointe l'irresponsabilité des hauts responsables des forces de défense et de sécurité.
Ça, c'est des actes totalement irresponsables. Nous ne savons pas comment cela a pu se produire. Et donc, au niveau de la Ligue centrafricaine, nous demandons que le gouvernement demande aux hauts responsables de l'armée qui avaient mis des troupes consignées comment ces choses-là ont pu se passer et puis pourquoi ces choses-là se sont passées et puis qu'on a pu arrêter les auteurs.
Si les autorités opte pour le silence, la MINUSCA de son côté salue la sécurisation de cette fête malgré les crépitements d'armes. Vladimir Motero, porte-parole.
Même si on peut se réjouir des résultats de la sécurisation, notamment en termes de prévention d'attaques par des groupes armés, il faut néanmoins regretter ces tirs, espérant que les enquêtes permettront de découvrir qui sont les responsables, d'autant plus qu'il y a un bébé qui a perdu la vie et il y a énormément de blessés.
La Saint-Sylvestre de cette année a été particulière, vu l'intensité des tirs d'armes dans la ville de Bangui.
Oje Obervo-Palanyawa dans l'émission Patara de Radio Ndekeluka. Monsieur Bindoumi, vous avez dénoncé cette pratique. Vous dites que c'est de l'irresponsabilité des hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce que vous qualifiez d'irresponsabilité?
Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Je voudrais profiter de votre micro pour présenter mes voeux au peuple centrafricain et particulièrement à vos auditeurs. Que cette année nous apporte la paix, la sécurité et puis que la cohésion sociale intervienne dans notre pays après le dialogue qui est envisagé. Effectivement, j'avais été entendu par Ndekeluka pour dénoncer ce qui s'est passé le 1er janvier 2022 parce que si je prends le décor, en 2021, nous avons connu beaucoup de violence dans ce pays. Lorsque nous avons vu arriver l'année 2022, tout le monde s'est inquiété parce qu'on donnait l'impression que des rumeurs, que les groupes armés étaient déjà rentrés dans la capitale et que ces groupes armés-là, à tout moment, profiteraient de la fête de la Saint-Sylvestre pour déclencher des opérations à l'intérieur de Bangui afin de conquérir le pouvoir politique. Donc le gouvernement averti a mis les forces armées, les forces de défense et de sécurité en tartinier consigné à l'effet de surveiller toute velléité qui serait de nature à troubler la fête de la Saint-Sylvestre. Donc nous, au niveau de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, nous étions rassurés parce que quand on se promenait à Bangui, dans tous les arrondissements, vous voyez la présence de groupes armés dans leurs bases pour prévenir toute éventualité de trouble au niveau de cette célébration. Mais malheureusement, lorsque la nuit de la 6 Sylvestre est arrivée, le nombre de détonations d'armes à feu, petit ou grand calibre, à l'intérieur de la capitale, parce que je signale la capitale, avait dépassé l'entendement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à la date du 1er janvier 2022, un quartier de la ville de Bangui qui a été préservé. Et vous-même, vous avez entendu les personnes que vous avez interrogées indiquer les dégâts corporels des gens qui sont décédés, des gens qui sont gravement blessés, des dégâts matériels, des biens d'autrui qui ont été cassés, même des représentations diplomatiques qui ont été touchées par des balles perdues. Et donc, nous avons dit que cette situation était suffisamment grave et que nous demandons au gouvernement de faire des investigations. Premièrement, parce que nous sommes toujours en période de couvre-feu. La période de couvre-feu suppose que les citoyens de la République centrafricaine, à 22h, sont à leur domicile, ne sont pas à l'extérieur. Que la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est les forces armées centrafricaines qui étaient dehors pour protéger les populations. Et qu'au moins, quand il y a eu des tirs, les forces qui étaient dehors auraient pu savoir à partir de quelle maison sortent les détonations.
Mais que si vous, ça vous va bien, on peut avancer un à un pour voir. Donc, c'est tous ces aspects que vous avez développés.
Voilà, donc c'est tous ces aspects et j'ai souhaité que le gouvernement investisse dessus et puis que j'ai pensé que le gouvernement devrait nous aider à avoir la lumière sur ce qui se passe.
Vous avez aussi écouté ce reportage, M. Dimbili. Quelle est donc votre réaction?
J'ai tout simplement sidéré. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous savez, moi je pense que le moment est venu pour qu'il y ait des actions de grande envergure pour désarmer la République centrafricaine, en commençant par la ville capitale, Bangui. Vous voyez, ce pays, il n'y a plus de casernes militaires. Les militaires vivent avec leurs armes chez eux, dans leur maison. Quelles que soient les consignes données, étant donné qu'ils ont les armes avec eux, ils vont faire ce que nous avons vécu la nuit de la Saint-Sylvestre. Deuxièmement, il y a eu dans ce pays-là beaucoup de mouvements militaires. Il y a eu d'abord les libérateurs. Tous ces libérateurs-là, ils sont où? Ils n'avaient pas été désarmés à l'époque. Ils ont leurs armes chez eux. Les éléments Séléka, ils sont rentrés à Bangui. Ils n'ont pas été désarmés. Ils ont leurs armes avec eux chez eux. La CPC, beaucoup étaient rentrés à Bangui. Bien qu'on ait arrêté leur velléité, mais ils sont rentrés. Ils demeurent avec leurs armes chez eux. Et c'est pour cela que, quelles que soient les consignes données par le gouvernement, quelles que soient les consignes données par les hautes autorités militaires, le jour de la nuit de la Saint-Sylvestre, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et c'est dommage pour le peuple centrafricain. Troisième élément, il y a ce que je pourrais qualifier d'acculturation. En ce sens qu'il y a des coutumes ailleurs où, pour célébrer une fête de cette dimension-là, même un mariage, on tire en l'air. Alors moi, j'ai peur que le Centrafricain n'épouse ces coutumes néfastes pour la cohésion sociale. Je voudrais profiter de cela pour présenter toutes mes condoléances aux familles qui ont vu leurs parents disparus, atteints pendant ces événements-là. C'est tout simplement dommage et je joins ma voix à celle de M. Binoumi pour demander aux autorités militaires et gouvernementales de mener de grandes enquêtes afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement et envisager le désarmement de la ville de Bangui.
Monsieur Ndouta, qu'en dites-vous?
Bon, je constate que malheureusement, et je rejoins mes prédécesseurs sur la question du manque de discipline, je pense que ce qui s'est passé le 31 décembre, en fait, la nuit de la Saint-Sylvestre, à partir de minuit, ces tirs qui ont retenti dans tout Bangui, disons, au-delà même de Bangui, puisque moi je suis un habitant de Bimbo, et j'ai été forcé de m'aplatir, de raser les murs. pour prendre des précautions et ne pas avoir des balles perdues. Je me rappelle que le 17 décembre, c'est-à-dire pratiquement deux semaines avant, le ministre de la Défense a diffusé un communiqué, justement pour mettre en garde toutes ces personnes qui utiliseraient les armes pour se réjouir. Et lorsque ce communiqué a été diffusé, personnellement, je l'ai relayé à plusieurs reprises, et je me disais que c'était une très bonne chose, une très bonne chose. Maintenant que les faits sont là, deux semaines après ce communiqué, des tirs ont retenti. Il y a eu des morts, il y a eu des centaines de blessés. Je m'attendais déjà à ce qu'il y ait un autre communiqué du ministère de la Défense pour ne serait-ce que déplorer cela et annoncer ce dont on parle aujourd'hui d'enquête ou de sanctions disciplinaires. Parce qu'on sait, on peut savoir d'où venaient ces tirs. Moi, de Bimbo, je voyais des balles passer au-dessus de ma maison, laissant derrière eux une sorte de lumière rouge. Et ça m'inquiétait parce que je me disais, mais ces balles qui sont tirées, ça va tomber forcément quelque part. Et à contrario, on voyait également des balles qui venaient de l'autre côté, j'allais dire de Bangui, en direction de Bimbo. Obligé de rester à l'intérieur de la maison et écouter pendant plus d'une trentaine de minutes. Moi, j'ai calculé pratiquement 35 minutes à partir de ma position avant de ne plus rien écouter. Mais en appelant d'autres quartiers, il paraît que les tirs se sont poursuivis pendant pratiquement une heure. Moi, ce que j'aurais souhaité, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier, c'est d'avoir une réaction officielle du gouvernement. Il y a eu des morts quand même, il faut le dire. Un bébé, deux autres enfants et des centaines de blessés. Qui va les prendre en charge? Est-ce que l'État pensait les prendre en charge? Mais au-delà de cette prise en charge, c'était quand même de rappeler l'autorité de l'État, c'est-à-dire de prendre des sanctions. C'est facile. Bon,
vous dites prendre des sanctions, mais contre qui? Puisque actuellement, les gens ont de la peine à découvrir, à identifier les auteurs de ces tirs.
Je ne suis pas un militaire, mais on sait que dans le milieu militaire, lorsqu'une balle sort d'une arme, on peut savoir d'où ça sort. On sait à quelle heure.
Pendant la nuit?
Pendant la nuit, on peut savoir. On peut identifier des personnes. On peut identifier des personnes qui ont tiré à partir de telle position, telle position, telle position, telle position. Je pense qu'il fallait prendre au moins pour donner l'exemple. Parce qu'il y a des brebis galeuses. Monsieur Dimbélé a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Ce n'est pas forcément les facas qui tirent. Il y a des gens qui ont des armes par-devers eux depuis belle lurette. Au gré des événements, ils ont gardé par-devers eux et ils l'utilisent. Il y a des braqueurs. Mais il y a également, effectivement, des militaires qui, malheureusement, utilisent également leurs armes pour commettre ce genre de situation. Donc moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait un exemple. Parce que là, on va vers... Toujours, on parle d'impunité. Trois morts, ce n'est pas rien du tout. 128 blessés, ce n'est pas rien du tout. Alors qu'on s'attendait à des réjouissances normales, on s'est réveillé le matin avec des pleurs dans certaines familles. Donc, le gouvernement aurait dû réagir, au moins par un communiqué, pour dire, voilà, malgré les mises en garde, nous avons déploré telle situation, telle situation, telle situation.
Monsieur Bindoumé,
et nous allons prendre des mesures adéquates. Et ces mesures, il ne faudrait pas que ça tarde.
Dans certains quartiers de Bangui, le couvre-feu a été violé pendant ce temps-là, au vu et au su de certains éléments de sécurité en patrouille. Est-ce que les forces de l'ordre et de sécurité se sont laissées faire?
Alors vous me posez là une question colle, parce que moi, à une certaine heure, moi j'ai respecté le couvre-feu, je suis resté à la maison, donc je ne sais pas là où ils ont fait. Mais ce que je peux noter, c'est que le lendemain, lorsque nous avons fait les investigations autour de Bangui, au niveau de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, l'hypothèse au départ, c'était que des malfaiteurs qui avaient pénétré Bangui devraient rester dans les arrondissements pour faire le trouble. Et donc, nous, on pensait que s'il y avait des coups de feu intempestifs, ça ne pouvait venir que des quartiers populaires. Mais lorsque nous avons fait nos investigations, nous sommes rendus compte que le centre-ville, qui n'avait pas de groupes armés cachés, avait fait autant de tirs que les quartiers populaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos propres forces ont contribué au désordre qui s'est passé dans la nuit du 31 au 1er janvier de 2022. Je voudrais aussi, avec votre permission, signaler que ce qui nous arrive, en principe, ne devrait pas nous étonner. Je voudrais préciser ma pensée. Ça ne devrait pas nous étonner. Nous avons habitué le peuple centrafricain à la fête systématique, malgré la guerre, malgré les conditions difficiles de pauvreté. Nous n'avons pas pris nos précautions pour dire que ce que nous craignons, ce n'était pas seulement les rebelles qui devaient rentrer à Bangui, c'était aussi les gens qui sont à l'intérieur qui devaient préserver les populations. Et donc, d'enchaînement de la fête à enchaînement de la fête, nous avons fait de la fête une œuvre particulière, de telle sorte que, même dans une situation de crise comme aujourd'hui, des gens peuvent aller s'endetter dans des banques pour faire la fête. Et ça c'est une idée qui nous rabaisse parce que ce qui est arrivé à Bangui, ce 1er janvier 2022, quand on fait la part des choses, ce n'est pas systématiquement ce qui est arrivé à Brazzaville, ce n'est pas systématiquement ce qui est arrivé à N'Djamena, ce n'est pas systématiquement ce qui est arrivé à Yaoundé. Ça veut dire que nous avons reculé. Et si la guerre qui était autour de nous, nous avons repoussé l'ennemi en dehors de la capitale, est-ce que nous avons aujourd'hui des raisons de justifier que dans la propre capitale, où se trouvent nos pouvoirs publics, où se trouvent les forces nationales, ces genres de choses-là pouvaient se passer sans que le lendemain matin, on nous aligne des personnes qu'on a pris la main dans le sac? Voilà la question que la Ligue centrafricaine des droits de l'homme se pose depuis ces événements.
Monsieur Dimbélé, 3 morts et plusieurs blessés, ni le gouvernement, ni la présidence de la République, ni l'Assemblée nationale a officiellement condamné cette pratique ou simplement déploré la mort de ses citoyens. Comment expliquer ce silence des autorités?
Mais là aussi, comme vous dites, ça c'est une situation que tout le monde déplore. Je ne crois pas que le gouvernement puisse rester silencieux face à une chose de cette dimension, ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale. Je pense que les enquêtes sont certainement en cours. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, je suis d'accord avec M. Binoumi par rapport au concept de la fête en République centrafricaine. Je vous disais que nous sommes en train d'épouser une culture qui n'est pas la nôtre. Et cette culture, c'est que la fête doit être symbolisée par des tirs d'armes. Hein? C'est ce qui s'est passé. Et c'est pas la première fois que ça arrive. En 1999, hein, la Saint-Sylvestre 1999, alors que des consignes avaient été données, alors que nous sortions d'une mutinerie. Mais il y a eu ce genre de choses et on a déploré des morts. Et le lendemain, nous tous, nous avions condamné la même, nous avions apporté les mêmes condamnations. Malheureusement, ça n'a pas changé. Je pense qu'il s'agit là, maintenant là, de prendre les mesures appropriées pour qu'à l'avenir, ce genre de manifestation ne puisse pas se réaliser. Les mesures à prendre sont les suivantes. Reconstruire et dans un bref délai les casernes militaires, mettre les militaires là où ils doivent être, interdire aux militaires de sortir avec les armes en dehors des casernes, procéder au désarmement de la République centrafricaine, notamment de Bangui, et qu'à la veille des fêtes de ce type-là, il faudrait une sérieuse sensibilisation et du gouvernement et des autorités militaires et de tous les Centrafricains, y compris la Ligue des droits de l'homme. Mettre tout le monde à contribution, sensibiliser les Centrafricains pour que la fête ne prenne pas la dimension que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous déplorons seulement le fait qu'il y a eu des tirs d'armes. C'est vrai, mais il y a eu d'autres choses que nous pouvons déplorer encore plus.
Mais lorsque vous parlez de la construction des casernes pour les militaires, comme si on est en train de vouloir accuser ce qui s'était passé, comme si ce sont les militaires, mais pour l'instant, c'est un peu difficile d'identifier les auteurs.
Je suis d'accord avec vous, mais je vous disais, tout à l'heure là, je vous ai dit que les origines sont nombreuses. Dans ce pays, nous avons eu des libérateurs. Ils sont venus avec leurs armes. Tous ces gens-là ont disparu dans la nature. On ne les a pas désarmés. Après, il y a eu des éléments Séléka qui sont venus. Tous ces gens-là, ils ont disparu dans la nature. Et récemment, les éléments de la CPC. Et aussi, avant, les militaires ne rentraient pas avec leurs armes chez eux. Les militaires ne rentraient pas avec les armes chez eux. Mais aujourd'hui, vous voyez les militaires avec leurs armes, ils vont dans les bars avec leurs armes, ils sont sur les motos avec leurs armes. Et ça, c'est des risques très graves. Et, or, si on mettait tous les militaires là où ils doivent être, je pense qu'on peut limiter ce genre d'événements-là. Je vous disais également que nous déplorons les tirs d'armes. Mais nous pouvons également déplorer d'autres manifestations qui, avant, ne faisaient pas partie de notre culture. Vous voyez des femmes qui se déshabillent parce que c'est le nouvel an. Vous voyez des enfants qu'on amène dans les bars parce que c'est la fête de Noël. Oui, c'est des choses qu'il faudrait.
Et c'est sur ce point que je voudrais poser cette question, voilà. M. Ndouta. Est-ce que le gouvernement est submergé au regard du développement de M. Dimbélé? On amène les enfants dans des bars, les femmes se déshabillent en public parce que on n'a pas encore vu ces exemples, mais comme il a cité. Si, et puis vrai. Des tirs d'armes par-ci, par-là. Est-ce que le gouvernement est submergé pour l'instant?
Bon, dire que le gouvernement est submergé, c'est excessif. Moi, je pense qu'il y a une question d'autorité de l'État. Je pense qu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Il n'y a pas 36 000 façons de faire respecter l'autorité de l'État que d'utiliser les forces qui sont à la disposition de cet État, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et dans une certaine mesure les forces armées centrafricaines. Moi, j'ai constaté que le 31 décembre, la ville de Bangui était très bien quadrillée. J'ai fait le tour de Bangui et on voyait des militaires visiblement qui étaient là pour parer à toute éventualité et pour rassurer les populations. Quand je suis rentré chez moi, vers 18h, je me suis dit, ah, au moins on va dormir tranquille, même les rumeurs qu'ils racontent. Personnellement, les histoires d'attaques de Bangui, ça c'est de la fabulation. Bangui ne sera jamais attaqué. Même il y a un an, le 13 janvier, lorsqu'il y a eu ces détonations autour de Bangui, je pense que c'était plutôt des règlements de compte entre les partenaires, groupes armés et leurs anciens partenaires. Donc, le gouvernement doit plutôt être ferme. Le communiqué du ministre de la Défense était clair. Il a réaffirmé cette fermeté. Et cette fermeté, malheureusement, on ne l'a pas vue de manière concrète. A contrario, vous avez vu le 24 décembre, disons le 25, jour de Noël, tous les bars étaient pris d'assaut. C'était des réjouissances populaires. On peut déplorer le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants dans les bars. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'on fait des fêtes et que cela se déroule dans de très bonnes conditions, Dieu merci, il n'y a pas eu de casse en tant que tel pendant la journée de Noël. Tous les endroits étaient vraiment dans le signe des festivités. Et cela même, je pense que n'a pas donné beaucoup de fil à retordre aux forces de l'ordre qui n'avaient pas beaucoup de choses, sinon que contrôler la circulation de ces personnes. Mais c'est ce qui s'est passé le 31, ces tirs d'armes automatiques. S'il n'y avait pas eu de tirs, je pense que la fête se serait déroulée dans de très bonnes conditions. Mais ce sont ces tirs-là. Et ces tirs, je le rappelle, on parle de gouvernement submergé. Non, je ne pense pas. Maintenant que peut-être qu'il y a des actions qui sont en cours pour essayer d'identifier, mais je pense qu'il faut donner l'exemple. Tant qu'on ne donne pas l'exemple en sanctionnant, moi j'appelle ça des brebis galeuses qui ont tiré en l'air. Est-ce qu'ils l'ont fait volontairement? Est-ce qu'ils l'ont fait par crainte? Est-ce qu'ils l'ont fait par dissuasion? Parce que souvent certains, quand ils ont peur, ils tirent pour montrer à l'autre qui serait je ne sais pas où que voilà, j'existe, je suis là. Mais ça n'apporte que l'effet contraire. Donc, le gouvernement submergé, je ne pense pas en tant que tel. Mais maintenant, il faudrait que ce gouvernement réaffirme la fermeté de l'autorité de l'État en prenant des exemples de sanctions. Nous savons ce qui se passe au sein des forces de défense de sécurité, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les FACA. Lorsqu'il y a une faute qui est commise par un corps d'IR, il y a des sanctions qui sont immédiatement prises. Des mises à pied, on enferme la personne pendant 8 jours, on fait ceci, on le rétrograde. Il faudrait qu'il y ait des sanctions. Et il ne faudrait pas que le gouvernement ait peur de sanctionner. Parce que souvent, on se dit, bon, si on va toucher les militaires, peut-être qu'il y aura la grogne, peut-être que non. Il faut des sanctions. Et il y a des sanctions. Si ces sanctions sont prises au niveau des populations, nous qui sommes des populations, nous allons peut-être applaudir ce gouvernement. Vous voyez, Monsieur Bindoumié, là, tout à l'heure, quand on parlait de casernement, des militaires qui entrent dans le quartier avec leurs armes, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais je pense qu'à l'époque de Mounoumi, il y avait une stratégie qui avait été mise en place pour que des militaires qui sont dans leur quartier puissent prendre en charge la sécurité de leur quartier. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est ça qui avait été mis en place.
Mais il avait été combattu.
Ça a été bien appliqué. Et avoir un militaire, moi, si j'ai un voisin militaire avec une AK, je me sens rassuré parce que je me dis, ah, les braqueurs ne vont pas s'aventurer. Malheureusement, plus les militaires sont dans le quartier, plus il y a de braquages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes indélicates qui utilisent les armes des vrais militaires pour causer des gaffes. Au niveau de Bimbo, il y a eu des cas où on a même abattu une personne qui appartenait, qui était le fils de quelqu'un. Mais ce n'était pas la responsabilité du père. C'était la responsabilité de ce fils qui était un bandit. Donc ce genre de situation, il faut trouver le juste milieu pour que les militaires qui entrent dans le quartier avec les armes, dans quelle mesure puissent les encadrer
pour qu'ils puissent sécuriser ce quartier-là.
Moi, c'est vous aurez, vous aurez compris aisément que nous avons tenté plusieurs fois, comme d'habitude, d'avoir sur ce plateau quelqu'un du gouvernement ou de la, du ministère de la Sécurité publique, même à la primature, pour participer à ce débat, pour parler des stratégies mises en place. C'est pourquoi nous avons convié ces membres de la société civile, des organisations de la société civile, pour parler de cette situation de la Saint-Sylvestre. Monsieur Binoumi, est-ce qu'on peut interpréter très rapidement ce qui s'était produit pendant la nuit de Saint-Sylvestre comme indice du maintien de l'embargo sur les armes à destination de l'armée centrafricaine?
Très bien, alors je vous remercie pour cette question. Mais avant d'arriver à cette question, je voudrais préciser un seul point. C'est pour soutenir notre co-débatteur Dimbélé, qui a parlé des coutumes que nous avons importées. Effectivement, vous vous rendez compte aujourd'hui que nous avons importé beaucoup de choses qui ne sont pas de notre civilisation. Lorsque on faisait le baptême, le mariage et les cérémonies coutumières, on ne prenait pas les armes pour tirer. Et si aujourd'hui ça prend de l'ampleur chez nous, ça veut dire que nous avons copié quelque part. De même qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte au niveau de Ntegeluka que quand quelqu'un décède, on fait son inhumation et puis après on dit on va se réunir pour le 40e jour. Mais le 40e jour ne correspond à rien par rapport au droit centrafricain. Ça, c'est le droit islamique qui a prévu que lorsque quelqu'un décède, il faut donner 40 jours pour vérifier si, en mourant, il n'a pas laissé un héritier en cachette, hein, une grossesse, pour qu'au moment de liquider la succession, on identifie la grossesse comme une partie. Mais aujourd'hui, les gens qui ne sont pas de cette coutume-là, quand ils perdent un parent, ils font le 40e jour. De même que nous avons copié chez les Européens, parce que chez les Blancs, ils arrivent, ils posent des actes pratiquement sexuels à l'occasion des mariages. Et nous, aujourd'hui, devant la belle famille, contre toute coutume, on pose des actes qui sont des commencements de la sexualité en public. Et puis, on commence à prendre donc des coutumes qui ne sont pas des coutumes centrafricaines, et je le dis à haute et intelligible voix. Maintenant, vous me dites si ce qui a été fait ne touche pas la question de l'embargo qui frappe la République centrafricaine depuis plusieurs années. Je vous dis que non seulement ça touche l'embargo, mais ça nous renvoie des années de force en arrière. Parce que qui sont les personnes qui décident de l'embargo dans le monde? Ce sont les pays membres du Conseil de sécurité, surtout les membres permanents du Conseil de sécurité qui sont à Bangui, pratiquement les États-Unis, la France et autres, qui sont membres du Conseil de sécurité, la Chine. C'est eux qui prennent les décisions de proroger ou ne pas proroger l'embargo. Maintenant, si les peu des armes que nous avons, nous ne réussissons pas à les utiliser à bon escient, c'est-à-dire que si nous avons dans nos poudrières quelques munitions, quelques armes, mais que sous prétexte de fête, nous sortons avec ces armes-là, nous les gaspillons dans la nature au point de blesser et de mettre même la vie des membres du gouvernement en danger. Vous savez, un ministre peut se retrouver sous sa véranda pour dire bonne année à ses enfants et puis une balle perdue vient l'arracher pour jeter par terre. Vous comprenez? Donc, ils se rendent compte que ces actes-là qui se sont passés ce 1er janvier 2022 donnent l'impression que nous ne sommes pas encore aptes pour qu'on lève l'embargo sur la République centrafricaine et puis qu'on autorise la République centrafricaine à acheter les armes qui lui permettent de défendre ses populations. Et j'avais dit que ça, c'était des situations plus graves. C'est la raison pour laquelle la Ligue centrafricaine des droits de l'homme avait demandé au gouvernement attention, ne serait-ce que sur la question de l'embargo, il faut crier pour que les membres du comité du Conseil de sécurité qui sont chez nous se disent que nous ne sommes pas solidaires du gaspillage qui s'est passé le 1er janvier 2022. Voilà pour répondre partiellement à cette question. Mais moi, je dis, même ça fait le centre de nos débats.
Sur cette même question de détonation d'armes pendant la nuit de Saint-Sylvestre, est-ce que ça peut donner un peu de tonus à ceux qui décideront d'ici peu de la situation de la République africaine en ce qui concerne l'embargo sur les armes?
Malheureusement, je pense que ce qui s'est passé dans la nuit de la Saint-Sylvestre va être documenté et ça va apporter l'eau au moulin de ceux qui maintiennent toujours notre pays dans cet embargo. La Russie, la Chine, les États-Unis, la France, pour ceux qui ont leur ambassade ici. Et je pense que, comme l'a dit M. Binoumi, c'est à nous, quand je dis nous, le gouvernement, nous les Centrafricains, de prendre de l'avant. Si on sanctionne, si on prend les mesures nécessaires pour, culpabiliser ceux qui ont fait cela, ça sera un indice supplémentaire Ça fera, comme on le dit souvent en matière de justice, on ne sera pas condamné directement parce qu'on dira, oui, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce sont des brebis égarées. Donc c'est maintenant que le gouvernement doit réagir. Nous savons que la prolongation de l'embargo, c'est jusqu'en juillet 2022. Jusqu'en juillet 2022, nous avons encore 6 mois pour essayer de corriger le tir. Mais ce qui s'est passé dans la nuit de Saint-Sylvestre va encore peser davantage. Mais il ne faut pas désespérer. Je dis toujours que l'embargo, c'est une question de négociation. C'est une question de suivi de ce qui se passe. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris sa Kalachnikov, a tiré en l'air pendant 30 minutes, que l'on doit pénaliser toute une république. Il faudrait qu'on trouve ces personnes, qu'on les sanctionne pour donner un gage à ce comité de sanctions qui nous suit au jour le jour, dont certains sont ici en République centrafricaine. Je pense que l'embargo va être maintenu probablement, comme toujours, et il faut toujours le dire, parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est l'embargo en tant que tel. Oui. L'embargo, lorsque l'on dit que l'embargo sur les armes, ça ne veut pas dire que c'est un embargo à 100%. Je l'avais dit lors d'une émission, on nous a donné des dérogations où nous pouvons avoir certaines munitions. Nous pouvons avoir des mortiers 16 mm, nous pouvons avoir des véhicules, nous pouvons avoir certaines armes. Donc on peut le faire. Mais maintenant, il ne faudrait pas que ces efforts de dérogation soient annihilés par ceux qui ont tiré dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Et maintenant, tout dépend maintenant du gouvernement. Si le gouvernement agit avec responsabilité en prenant des sanctions, en prenant des mesures de fermeté contre ceux qui ont tiré cette nuit-là, je pense que cela peut atténuer un peu les effets en direction du comité de sanctions qui nous suit.
Monsieur Dimbele Nakwe, sur cette même question.
Mais je suis d'accord avec ce que les autres ont dit, sauf que il faut réussir à établir la responsabilité des FACA. Parce que moi, je vous disais tout à l'heure que ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement les forces, les éléments des forces armées centrafricaines qui ont fait ça. Nous sommes tous au courant que dans ce pays-là, il y a eu prolifération d'armes de tout calibre. Je vous ai cité les cas des Libérateurs, des Seleka, des CPC, etc. Donc rien ne prouve pour le moment que ce sont les éléments des forces armées centrafricaines qui ont tiré en l'air ou bien pour faire quoi pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Hein? Et donc, à partir de là, on ne peut pas d'emblée et a priori sanctionner un pays pour ce qui s'est passé en ignorant les vrais responsables. Et c'est pour cela que je vais dans le même sens que Christian, qu'il faudrait d'abord chercher à établir les responsabilités. Quelles sont les personnes qui ont fait ces choses-là, nonobstant l'avertissement du gouvernement. Deuxièmement, il faudrait maintenant que nous tous les Centrafricains, je veux dire, que nous arrivions à convaincre les uns et les autres, nous les Centrafricains également, que ce n'est pas notre coutume, ça ne fait pas partie de nos coutumes. Que pendant les fêtes, il faut tirer en l'air, parce que c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne crois pas que ces tirs-là aient été faits pour faire mal. Non. Ces tirs-là, les gens ont tiré.
Mais peut-être c'est dans la joie, mais ça fait mal, parce que ça fait déjà plusieurs morts.
Ça fait exactement mal. Mais donc l'intention n'était pas de tirer pour tuer. C'était pas ça l'intention. L'intention, c'était que les gens, portés par la réjouissance populaire, ont tiré en l'air. Je vous ai dit qu'en 1999, nous avons vécu le même phénomène. Donc les gens ont tiré pour se réjouir et malheureusement, ça fait mal. Ça fait mal aux voisins, ça fait mal à la population.
Mais je reste avec vous. Lorsque vous évoquez tout à l'heure la question des armes qui pullulent encore dans les quartiers ou dans la République centrafricaine ou dans certaines villes de Bangui, dans certaines villes de la République centrafricaine, mais que fait le DDRR, le service DDRR pour l'instant? Est-ce que avec les patrouilles, les fouilles que les forces de l'ordre et de sécurité ont menées la fois dernière ne permettent pas ou n'ont pas permis de vraiment ramasser certaines armes?
Mais nous avons vu, monsieur Binoumi en face de moi a été ministre de la Défense. À un moment donné, et je pense que le gouvernement de l'époque, vu l'ampleur de la chose, de la présence d'armes dans les quartiers de Bangui, lui, il avait dit aux militaires, bon, puisque vous avez les armes, et puisque vous dormez avec vos armes dans les quartiers, utilisez ces armes-là pour protéger vos quartiers. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des checkpoints un peu partout dans les quartiers et cela a contribué à atténuer les actes de vandalisme, les actes de pillage. Mais les mêmes Centrafricains, au lieu d'encourager ce ministre de la Défense là qui avait mis ça en place, les mêmes Centrafricains ont plutôt déploré, ont commencé à condamner jusqu'à ce qu'ils soient enlevés de ses fonctions et que les checkpoints plantés instaurés dans les quartiers de Bangui soient enlevés.
Donc ça veut dire qu'il y a l'initiative, il y a une initiative qui manque à ce niveau.
Non, il y a des initiatives partout. Aujourd'hui, le DDRR est en place. Il y a des gens à Alindao récemment. Il y a des éléments des groupes armés qui ont ramené les armes. Mais est-ce que vous pensez qu'ils puissent, ils ont ramené toutes leurs armes? Des gens qui sont habitués à vivre avec ces armes-là. Vous pensez vraiment qu'ils vont ramener toutes les armes? Non. Je pense que c'est à l'issue de plusieurs campagnes de sensibilisation et plusieurs années et avec force. Parfois, il faut utiliser la force. Vous avez vu ce qui s'est passé hier au kilomètre 5? Des gens qui sortent du néant avec des armes en main et qui tuent. Vous voyez, donc ça confirme ce que nous disons ici, qu'il y a vraiment beaucoup d'armes à Bangui. Et excusez-moi, donnez-moi quelques secondes.
Allez-y.
C'est juste pour dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas condamner un pays, proroger l'embargo, la sanction. Vis-à-vis des forces armées centrafricaines, sans qu'il y ait des responsabilités établies, sans qu'on ait établi que ce sont les éléments de FACA qui ont fait ce tir-là le jour de la Saint-Sylvestre. Et en ignorant également que ça fait partie désormais des coutumes, habituons-nous à cela. Et même si c'est mal à dire, mais habituons-nous à ce que pendant la Saint-Sylvestre, il y a des tirs. C'est pour cela, d'ailleurs, que le ministre de la Défense a pris le devant pour mettre les militaires en garde, parce que tout le monde savait qu'il va avoir des tirs. Tout le monde savait qu'il va avoir des tirs. Donc, ça fait partie de ces coutumes importées.
Non, moi, je rebondis un peu sur ce que M. Dimbélé dit. C'est vrai, on n'accuse pas les FACA, on n'accuse pas toutes les forces armées centrafricaines, mais on peut tracer une balle. Vous savez, beaucoup de gens ont récupéré des balles, ont récupéré des douilles. Je ne suis pas un expert en balistique, je ne fais pas partie de cette unité qui contrôle les armes et tout de suite, mais on peut savoir à qui appartient telle ou telle munition. Maintenant, et c'est là le rôle important que doit jouer la police et la gendarmerie. On sait à peu près d'où venaient ces tirs. On sait à peu près qui a tiré. On peut le savoir à travers les populations. Ces populations, quand on tire à côté de ta maison, tu peux savoir, ah mais tu vas, tu dis aux forces de défense et de sécurité, ah, à côté de chez moi, on a tiré. Et on essaie de vérifier, est-ce que c'est un militaire qui est là? Est-ce que c'est qui est là? Est-ce que c'est qui est là? Et on peut le savoir. Le ministre Bindoumé a parlé tout à l'heure du centre-ville. Comment comprendre qu'à partir du centre-ville, on puisse avoir des détonations? C'est inconcevable. Donc, c'est un travail qui se fait. Probablement qu'il y a une enquête qui est menée, mais ce n'est pas toute la responsabilité à mettre sur les forces de défense, sur les forces armées centrafricaines, les FACA. Quand on circule dans Bangui, on voit que les FACA sont là présents. Et je vous l'ai dit, le 31 décembre, la ville était très bien quadrillée. On s'était dit que ça allait se dérouler dans de très bonnes conditions. Malheureusement, ce sont ces tirs qui ont annihilé toute la volonté du gouvernement, parce qu'il faut reconnaître que cette fois-ci, le gouvernement avait mis le paquet pour sécuriser la ville de Bangui et alentour. Moi, je parle de Bimbo, de Bégoua sans doute, mais au niveau de Bimbo, on se sentait en sécurité puisqu'il y avait des militaires et des gendarmes un peu dans tous les différents carrefours. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. La question d'embargo, certes, ça va peser malheureusement, mais on peut trouver un moyen de pallier à cela en ayant des arguments. Et ces arguments, il faut sanctionner. Il faut trouver le bouc émissaire. Non, il faut trouver des coupables. Pas de bouc émissaire, il faut trouver des coupables. Il y a des coupables, il y a des gens qui ont tiré. Pendant une heure de temps, on tire dans une capitale qui s'appelle Bangui et alentour, on peut trouver au moins une personne. Voilà ce que je demande au gouvernement de faire.
Mais je reste avec vous avec cette question de fouilles dans des quartiers qu'on a menés la fois dernière. Est-ce que cela a permis vraiment de diminuer les armes chez les particuliers, chez les gens qui ne sont pas habilités à détenir les armes?
Ça, c'est une très bonne question et je pense que cela devrait susciter d'autres débats. Moi, j'étais partisan de ce genre de fouilles. Je me dis, quadriller les différents quartiers, et il y a eu le quadrillage de plusieurs quartiers de Bangui. Un matin à Bimbo, on se retrouvait avec les forces de défense qui avaient quadrillé tout. On a ramassé des personnes, mais le problème, c'est la communication qui s'en est suivie. On n'a jamais su exactement quel était le résultat de tous ces quadrillages. Est-ce qu'on a pris des armes? Combien d'armes? Est-ce qu'on a trouvé combien de braqueurs? Combien de personnes avec des... Ça pourrait rassurer les populations. Cette opération était saluée par tous les centrafricains. Je me rappelle qu'un jour, en allant au Boulanville, on a quadrillé le deuxième arrondissement avec des tirs, parce qu'il y a des gens qui voulaient fuir par le feu, qui étaient bloqués. Mais toutes ces personnes qui ont été récupérées, est-ce qu'on a récupéré des armes sur eux? C'est sûr qu'on a récupéré des armes, mais il faut le montrer aux populations pour dire voilà ce que le gouvernement a fait. Jusqu'à aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu une communication. La communication est extrêmement importante dans ce genre de crise. Si vous communiquez bien, si le gouvernement communique bien, comme cela s'est fait le 17 décembre, le ministre Biro a fait un communiqué qui a rassuré. Je me suis dit voilà, mais à contrario, après les événements, il faut immédiatement communiquer. Donc, quand vous parlez de ces quadrillages, c'était une très belle initiative que j'ai adhéré à 100%, et ça a permis même à certaines populations de certains quartiers d'indexer certaines personnes qui habitaient dans le quartier qui possédaient des armes. Mais la suite, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Est-ce qu'on a ramassé des armes? C'est sûr, mais combien d'armes? On ne le sait pas.
Sur la question de fouilles, M. Bindoumi, dans les quartiers de Bangui, avec ce que nous avons connu pendant la nuit de Saint-Sylvestre, est-ce que ces fouilles ont été efficaces?
Bon, moi, je ne peux pas affirmer que les fouilles qui ont été effectuées ont été efficaces ou non. Parce que, vous savez, on peut fouiller un quartier efficacement, mais si après on lâche, et ce qui se fait souvent chez nous, les mêmes armes rentrent dans les quartiers à nouveau. Donc je ne peux pas dire si les fouilles ont eu un succès ou pas. Mais ce que je peux par exemple dire, c'est soutenir la position de Emin Dota, c'est de dire qu'on pouvait bien, si on n'avait pas tenu comme ça, on pouvait bien trouver quelques coupables. Ne serait-ce que de notre côté, je vous donne un exemple, ne serait-ce que de notre côté, si le lendemain premier, la hiérarchie militaire s'était étonnée de ce qui s'est passé, la hiérarchie militaire aurait demandé à chaque chef de groupe de vérifier le canon de chaque militaire pour s'assurer que telle arme a été utilisée cette nuit. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que quand on tire une Kalachnikov, on laisse dans le tuyau de l'arme l'odeur de la poudre, les traces que l'arme a été utilisée. Et donc si on fait cette vérification très rapidement, on va trouver quels sont les militaires qui cette nuit-là se sont servis de leurs armes. De même que lorsque un poste de militaire a été pratiquement comme ici, et puis qu'à 10 mètres, il y a eu des gens qui ont tiré, mais sans que les militaires soient capables de donner l'assaut pour récupérer la personne et son arme, c'est qu'on a été défaillant. Donc je crois que c'est ça que Emin Dota voulait dire, c'est-à-dire que si on avait fait des investigations, puisque maintenant les jours se passent, on est en train de perdre des traces. Ça va être difficile après. Si on avait trouvé ces éléments-là, on aurait pu prendre des sanctions, les lire officiellement à la nation et puis appeler que tout militaire ne devrait plus être capable de faire ce genre de choses. Et puis, en plus, vous savez, je ne veux pas parler ici parce que j'ai toujours été gêné lorsque nous sommes en débat et qu'on dit « Monsieur Bindoumi, ancien ministre de la Défense ». Je n'aime pas parce que ça me gêne, puisqu'il y a un ministre de la Défense en activité. Donc, je ne peux pas donner l'impression que j'ai une nostalgie par rapport à un poste que j'ai occupé. Mais lorsque vous vous rendez compte aujourd'hui du contrôle qu'on fait des véhicules qui rentrent ou des véhicules qui sortent, mais vous trouvez des gens sur place qui vous disent « Ah, vous venez d'où ?» etc. « Mais nous, on n'a pas eu de café depuis hier soir, bon, vraiment. » Et puis vous donnez 1000 francs, vous donnez 2000 francs. Et quand vous le faites comme ça, vous faites rentrer des armes à l'intérieur du pays. Vous avez aujourd'hui aussi des formes dangereuses. Des gens qui vous disent, nous on a quitté la rébellion, on veut rentrer dans les rangs. Maintenant, s'ils quittent la rébellion pour rentrer dans les rangs et qu'on ne soit pas sûr de l'endroit où ils vont se trouver, comment ça se fait? Parce qu'un militaire, quand il quitte une rébellion, il est pris en charge directement par les forces nationales pour s'assurer de son intégration à la République. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, que j'écoute à la radio, j'ai l'impression que ça fait un peu publicité. En principe, il faut faire attention à ça.
Monsieur Dimbélé, rapidement pour boucler ce débat, en dépit de ces incidents, n'est-ce pas que le gouvernement a réussi à sécuriser les centrafricains durant la célébration du réveillon?
Je vous remercie. Moi, je pense que ce que nous déplorons, ce sont les tirs. Et ce que nous déplorons également, c'est quelques cas de décès et de balles perdues qui ont atteint plusieurs compatriotes. Mais globalement, la fête s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Moi, je voudrais, comme vous dites, pour clore, je voudrais dire que ce que nous déplorons a pour origine l'importation, comme disait tout à l'heure M. Binoubi, l'importation de certaines coutumes qui ne sont pas les nôtres. L'importation de ces coutumes-là. Tirer en l'air pendant les deuils, tirer en l'air pendant les mariages, tirer en l'air pendant les grandes cérémonies. Voilà, ce sont ces coutumes-là qui font mal aujourd'hui. Et je voudrais également dire que je sais qu'il y a eu des actions qui ont été menées la nuit même de la Saint-Sylvestre. C'est vrai qu'il y a manque de communication. Est-ce que c'est volontairement que le gouvernement tait ce qui s'est passé, que le ministère de la Sécurité et de la Défense taise ce qu'ils ont fait? Mais je sais qu'il y a eu des gens qui ont été pris, il y a des personnes qui ont été prises pendant cette nuit-là, et que il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations pendant cette nuit-là, mais nous encourageons...
Oui, mais ici, on parle du silence du gouvernement par rapport à ces cas de décès, de blessés, autres. C'est ça, en fait. Bon, est-ce qu'on a pu communiquer pour rassurer le peuple centrafricain, les victimes, sur cette question?
C'est ça qu'on peut peut-être déplorer, mais je sais que pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, il y a eu des actions qui ont été menées, il y a eu des actions qui ont été réalisées, des personnes ont été arrêtées, et c'est le manque de communication que nous déplorons. Et ça ne concerne pas seulement que ça, hein, ça concerne certaines autres actions que le gouvernement pose, hein, certains actes que le gouvernement de positif, hein, certains actes positifs que le gouvernement pose, et il manque beaucoup de communication autour pour convaincre le peuple centrafricain.
Mais rapidement, M. Ndouta, sur cette question du manque de communication, des actions menées pour le peuple centrafricain, pour la population, qu'est-ce qui explique cela, selon vous?
Bon, je pense qu'il y a un manque de volonté. Nous sommes spécialistes, je suis spécialiste en communication. Je discute très souvent avec certaines personnalités de ce pays et à qui je donne des conseils. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Communiquer, ça ne veut pas dire divulguer des secrets d'État. Communiquer, c'est pour rassurer. Il y a plusieurs sortes de communication. Dans ce cas de crise, il faut rassurer les gens. Comme l'a dit M. Djimbélé, il y a eu des opérations, sans doute. On a peut-être arrêté les gens, mais il faut rassurer les populations en leur disant, voilà, suite aux différents tirs qui se sont déroulés dans la nuit de la Saint-Sylvestre, le gouvernement a déploré, tant, un petit communiqué, quelques paragraphes, ça rassure. Tant que vous ne parlez pas, on a l'impression que le gouvernement ne fait rien. Et si vous ne communiquez pas très bien, on donne toujours tort au gouvernement, même si les choses se font. On a parlé tout à l'heure des questions des fouilles dans les différents quartiers de Bangui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu les résultats. Par communiqué, par exemple. Les communiqués, ça ne coûte rien. Toujours donner la bonne information, l'information qui peut rassurer. Lorsque l'on communique, c'est pour rassurer les populations. Tant qu'on ne rassure pas les populations auront toujours des craintes et vont toujours accuser le gouvernement de ne rien dire. Nous avons eu 3 morts, 128 blessés, disons 130 blessés. Mais aucune compassion du gouvernement à travers ne serait-ce qu'un communiqué pour déplorer cela et mettre en garde certaines personnes, même si on ne donne pas les noms des personnes, mais que l'on nous dise que des personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête suite aux différents tirs. Ça ne coûte rien et ça donne beaucoup plus d'obédience au gouvernement centrafricain. Donc la communication est extrêmement importante dans ce genre de situation.
Et maintenant, parlons des victimes.
Malheureusement, bon, dans ce genre de cas, en principe, il y a un ministère, celui des Affaires sociales ou la Solidarité nationale qui s'en occupe. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites, mais comme il n'y a pas eu de communication, on ne peut pas le dire. Dans ce genre de cas, les ministres vont au chevet. J'ai suivi la radio, j'ai suivi la télé, je n'ai pas vu d'image de ce genre de compassion. Et c'est important d'aller vers ces populations. Ce n'est pas forcément de donner de l'argent, mais d'être présent et de compatir.
Monsieur Bindoumi, sur la question du manque de communication, est-ce que les gens méconnaissent le rôle ou l'importance de la communication ou ne connaissent pas comment est-ce qu'on peut communiquer, ou il y a une méfiance vis-à-vis de ceux qui
bon, alors, il faudrait que nous soyons... Moi, je parle ici en tant que président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Il faut que je vous le dise ça à haute voix. Nous avons un gouvernement qui ne communique pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, le président de la République est en difficulté. Il est en difficulté. Pourquoi? Parce que les ministres qui sont en réalité des fusibles du chef de l'État, ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans un gouvernement. Mais un ministre n'est pas celui qui dit « le président m'a dit, le président a souhaité, le président a fait ». Il faut à un moment donné que vous, en tant que petit président de votre ministère, vous soyez capable de poser des actes et de rendre compte au chef de l'État. Il faut que vous posiez des actes. Vous posez des actes, vous rendez compte au chef de l'État. Maintenant, si quelqu'un refuse par rapport à son ministère de poser des actes pour attendre seulement que ce soit le président de la République qui lui dise « bon, tu peux aller » et qu'il arrive là-bas, je viens vous voir au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous la supervision de Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que vous n'existez pas. Un gouvernement, ce n'est pas comme ça. Un gouvernement, il faut que quelqu'un prenne ses responsabilités. Et dit, mais il y a la solidarité gouvernementale, mais je monte devant la scène. Si le président est d'accord avec moi, il me soutient. S'il pense que ce que j'ai fait n'est pas bien, il me relève. Mais au moins, on montre que le pays bouge. Et parfois, quand le président s'absente,
Est-ce qu'il y a des consignes? Peut-être on peut donner des consignes en sourdine.
Celui-là
ne doit pas parler.
Le président Faustin Akache, je connais, n'est pas à la hauteur de donner des consignes aux gens de ne pas faire leur travail. Mais c'est plutôt les gens qui veulent donner la bénédiction que ce que je fais, c'est Faustin Akache qui m'a dit de faire. Or, le gouvernement ne fonctionne pas de cette manière-là. Le gouvernement, le président vous a choisi par rapport à votre compétence et il vous a donné une mission. Et sur cette mission, vous mettez au travail et puis vous rendez compte. Est-ce que vous comprenez?
Oui, moi, je rebondis sur ce que M. Bindoumbi va nous dire. Tout est question de responsabilité. Lorsque l'on vous nomme à un poste de responsabilité, c'est à vous de faire le travail. Ce n'est pas forcément le chef qui doit te dire « faites ça, faites ça, faites ça ». Vous assumez, vous signez et vous rendez compte. D'ailleurs, le président, à chaque fois qu'il y a le tout premier conseil des ministres, lorsqu'il met en place le gouvernement, il trace la voie. Il fait un discours où il indique la voie. Parmi les termes utilisés, c'est la responsabilité et le compte-rendu.
Vous voulez parler de l'incompétence qui plane à Sun, vous, quoi? Parce que vous n'êtes pas clair. Hein.
Le terme incompétent, je ne veux pas l'utiliser. Je pense que chacun constate comment chacun fonctionne. Dans le gouvernement, il y a des ministres qui fonctionnent extrêmement bien. Mais en termes de communication, je reste sur le domaine de la communication. Très peu de choses se font dans le sens voulu par le président de la République. Quand vous écoutez les différents discours, il y a eu un séminaire gouvernemental qui a été institué où des personnalités sont parties pour évoquer comment doit fonctionner un ministre ou un ministère. Mais maintenant, si dans certains départements, les gens ne prennent pas à cœur ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas au président de vouloir tout faire, même si c'est le responsable numéro un. Moi, j'accuse toujours, je dis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le président de la République, parce que c'est le chef, c'est le numéro un. Et comme si ça ne va pas, il doit prendre des sanctions, relever certaines personnes. Donc, la question de communication, c'est d'abord une question de responsabilité. Dans le cas d'espèce, il fallait que le gouvernement communique davantage.
Voilà, fin de ce exercice démocratique, le débat politique de Radio Ndekeluka. Je rappelle que nous parlions aujourd'hui des tirs intempestifs d'armes pendant la nuit de Saint-Sylvestre 2021. Vous êtes nombreux à demander pourquoi vous n'écoutez pas vos réactions orales écrites. Patara a tout pris en compte vos préoccupations. Vous pouvez suivre ce débat en podcast sur www.radiondekeluka.org. Merci à Mathurin Dimbelena, co-coordinateur du mouvement Centrafrique Debout, organisation qui soutient les actions du gouvernement. Merci à Joseph Bindoumi, président de la Ligue Centrafricaine de Droits de l'Homme, membre de la société civile. Merci aussi à Christian Emendota, journaliste indépendant et observateur de la vie socio-politique centrafricaine. Anne-Alix Poulemati à la manette et moi, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Portez-vous bien. Au revoir.
Bon, alors moi, je n'avais pas mes lunettes, je n'ai pas les...